Donc bonjour à tous. Alors évidemment, merci à Hélène et Didier de leur invitation. Et le titre, il est venu un petit peu de notre échange quand on s'est posé la question de ce que les sciences de gestion pouvaient apporter à la discussion sur ces liens publics-privés. Et donc à ce moment-là, l'idée, c'était de vous présenter une partie de quelques travaux que l'on a menés avec des collègues sur les relations entre l'individu en tant qu'employé qui va être sur Facebook, qui a une vie sociale sur les réseaux sociaux numériques, donc qui a ses amis et qui potentiellement peut y retrouver son entreprise, son employeur, son université, et enfin ses collègues. Et donc finalement, on se retrouve tous sur Facebook. Et donc on va faire un petit peu une focale sur cette relation donc de l'employeur-employé sur donc employeur l'entreprise, pour synthétiser un petit peu ou pour caricaturer. Et donc l'employé qui est l'individu ou le consommateur. Alors pourquoi est-ce que moi plutôt en sciences de gestion et plus spécifiquement en marketing, je vais m'intéresser à l'employé. C'est parce que quand on parle du digital, on parle bien sûr des problématiques de e-réputation, donc de réputation de l'entreprise, de la marque sur Internet. Et un des problèmes qui est en tout cas assez récurrent, qui monte, qui émerge, même si ça peut-être est en train de se stabiliser puisqu'il y a une certaine prise de conscience des employés, mais en tout cas un problème de communication négative qui peuvent être et de buzz extrêmement négatifs qui peuvent être faits sur le net par un employé qui ne fait pas bien attention à ce qu'il dit et à ce qui peut être entendu, diffusé, circulé, transformé, et qui va parler de son entreprise, puisque c'est très très facile de savoir si vous me cherchez sur un Facebook et demandez à être mon ami, vous verrez tout de suite qui sont mes amis et vous verrez aussi qu'on indique des informations sur notre profil. Donc voilà, de cette question sur comment préserver le capital de marque d'une entreprise est arrivé tous les travaux que l'on a menés avec des collègues et que je vais vous présenter. Donc l'idée, c'est qu'en termes de présentation, on va juste rappeler un peu le contexte avec le fait que nous soyons dans une société numérique qui est inclusive, avec les transformations pour les entreprises d'un côté, pour l'employé de l'autre. Et que quand on parle donc de public-privé, moi j'ai plutôt pensé en termes de porosité de cet espace-temps, de l'espace personnel, du temps personnel et du temps public quand on est sur la scène, quand on est par exemple ici aujourd'hui à parler ou quand on est chez son employeur. Et de vous présenter donc de manière très gestionnaire d'une logique opportunité-menace de ces rapports entre employeurs et employés dans le contexte. Ensuite, je vous développerai un peu plus les chartes éditoriales sociales. Donc c'est le projet de recherche sur lequel on a travaillé avec des collègues en sciences de l'éducation et en information et communication. Donc comme technique de régulation du discours de l'employé, c'est-à-dire une volonté des entreprises d'essayer d'utiliser un outil. Ces chartes éditoriales sociales, c'est une approche institutionnelle de la firme, un outil de gestion pour essayer d'empêcher, entre guillemets, ou de sensibiliser l'employé à ne pas faire attention à ce qu'il dit sur Internet quand il parle de son employeur. Et je vous présenterai les trois terrains d'études. Donc on a fait une première étude, j'ai fait une première étude exploratoire des pratiques de communicants. Ensuite, on a fait une étude sur les producteurs de ces outils de régulation et qu'est-ce qu'ils en pensent. Et on parlera donc du travail qu'on a terminé et sur lequel on n'a pas encore de valorisation sur l'impact de cette charte sur les comportements de l'individu en tant qu'employé, quand il y a une situation d'attaque irréputationnelle de son entreprise. Et puis on conclura. Alors, la société numérique inclusive, source de transformation, ça va pas être... Je vous fais grâce de voir le slide et le visuel, mais on a un très beau YouTube qui vous explique les derniers chiffres, qui explique combien on a des utilisateurs qui augmentent, qu'il y a un taux de pénétration dans les populations nationales qui va croissant partout, et surtout que c'est une société numérique inclusive, puisque ça s'étend maintenant à tous les segments, âge, résidence, CSP. Donc là, par exemple, la majorité des Américains désormais utilisent Facebook et YouTube. À 68%, ils sont tous sur Facebook et à 73% sur YouTube. Savoir aussi que finalement, parfois, pour des populations les plus défavorisées, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des personnes sans domicile fixe, peuvent avoir au contraire Internet et par le biais de leur smartphone, c'est un moyen d'être Alors, c'est un phénomène qui est accompagné de transformation. Pour l'individu, ben, ça modifie, ça redéfinit nos sociabilités, puisque maintenant, ça nous permet d'anticiper, d'accompagner, de continuer l'échange grâce à la connectivité et au-delà de la rencontre physique. C'est-à-dire que nous, on va simplement s'organiser en amont pour en discuter. On va éventuellement se renvoyer des photos par la suite. Certaines catégories nationales vont faire des photos et échanger pendant qu'ils sont à table autour du repas et s'envoyer des messages pendant le message. Ça crée aussi de nouvelles opportunités de sociabilité avec de nouvelles agora, des plateformes, des thématiques, des communautés virtuelles, des e-forums, les groupes sur Facebook si vous voulez manifester pour quelque chose de particulier. Pour les organisations, ça modifie les logiques de communication. C'est-à-dire que maintenant, il y a ça aussi. On parle de communication 360 et ce n'est pas avec un Didier ici que je vais m'autoriser à aller plus loin, c'est lui le spécialiste. Mais on peut maintenant communiquer sur énormément. On parle de communication 360 degrés. Il faut communiquer sur toutes les possibilités. Et ça représente aussi des nouvelles opportunités de contact et d'échange avec les individus. Alors, des sphères privées et publiques qui sont réinterrogées par la connectivité, si on faisait l'idée... schéma un petit peu caricatural, il y a la vie de tous les jours avec les espaces habituels en blanc qu'on va estimer être l'espace public, et puis ensuite il y a l'espace individuel, privé, et il y a l'espace de la firme qui est un autre espace qui n'est pas complètement public, et au milieu de tout ça il y a cette interaction normalement du temps que l'on passe dans l'entreprise, du temps de travail. Alors, la sphère privée de l'individu, c'est de l'intime, c'est du personnel, c'est le dedans, si on fait des métaphores, c'est la maison versus le dehors, ce serait la rue ou l'agora. Mais aujourd'hui, c'est un dedans qu'on va mettre en scène sur les réseaux sociaux numériques, on va poster des photos de ce qui se passe. La sphère publique, elle, ce sont tous les espaces ouverts, partagés, normalement régis par des règles sociales et des normes sociétales, mais qui va vraiment s'inviter dans le temps de l'individu via les partages numériques. J'ai pris l'exemple de tout l'hommage ou tout ce qui s'est passé après les attentats de novembre 2015 avec ce fameux « Je suis Charlie » que vous avez tous peut-être mis sur votre, comme la Femica, sur votre profil Facebook à un moment. En tout cas, vous avez peut-être pris cette image-là pendant quelques temps. Donc ça s'invite vraiment sur nos espaces personnels. L'espace physique de l'organisation et le cadre temporel du travail, donc, qui est interrogé aussi par ça, parce que qui ne va pas avec son téléphone portable et en profiter pour consulter son profil Facebook ? Peut-être nous, les adultes, entre guillemets, mais nos étudiants, par exemple. On sait très bien que pendant nos cours, ils sont en train de consulter leur profil. Donc même si ce n'est pas un espace de travail, c'est un moment où ils sont censés être concernés. Et cette idée du temps, de cet espace physique de l'organisation, ce temps de travail, est vraiment mis au défi du télétravail, avec tout ce qui est digital nomads, avec maintenant le fait que vous pouvez travailler à la maison. Donc maintenant, où est la place de l'entreprise ? Donc ça questionne des logiques de management avec l'idée de comment on va, quelle est la vision de la gestion et du contrôle du travail des employés. Comment je peux être sûr qu'il va vraiment être en train de travailler sur son lundi où il est censé être en télétravail ? Est-ce qu'il n'est pas en train d'en profiter pour, etc. Donc quel mode de régulation de la firme, donc du travail par la firme vis-à-vis de ses employés ? Alors... l'impact de cela, c'est donc des individus qui sont aussi, en termes de tendance sociétale, de plus en plus enclins au partage social. On sait qu'il y a une ampleur du phénomène. Le nombre de postes, ça n'arrête pas d'augmenter. On ne donne pas les chiffres parce que dans 3 mois, ils vont avoir mieux. Ça va être beaucoup plus important. L'idée aussi qu'on est passé du partage de l'extraordinaire, c'est-à-dire que c'était vos vacances, c'était le moment un peu exceptionnel, l'événement en fait à un partage du quotidien, on va faire des photos simplement parce que c'est joli, maintenant on a sur Instagram, on va mettre en scène peut-être la rue juste devant chez vous, mais parce que vous allez la mettre en scène. Et donc cette idée d'une mise en scène de soi qui devient de plus en plus systématique, tous les jours, à tous les moments, une stratégie de mise en visibilité qui est... aussi dans une logique d'audience. Je dois animer mon profil, je dois mettre en place des choses pour que les gens continuent à aller voir sur mon site et regarder ce qui se passe. Et à côté de ça, avec l'idée de l'esthétisation du soi, donc le casual, essayer de se... avec toutes les plateformes donc, de mise en ligne qui sont disponibles, et maintenant les outils de filtrage, puisque vous savez peut-être aussi qu'il y a des dérives, maintenant certains individus demandent à avoir des opérations chirurgicales d'esthétique pour ressembler au profil Facebook qu'ils pouvaient avoir d'eux-mêmes ou à la photo qui était améliorée de leur propre image. Donc on est vraiment en train de chercher à être au naturel le plus beau. Et je vous passe l'exemple, mais trop belle à naturel, c'est vraiment c'est le hashtag trop belle au naturel. J'ai adoré, je vous conseille d'aller voir ce début de film de Jumanji où il y avait la jeune fille qui pendant 3 minutes va être en train de chercher la bonne position pour se prendre en photo et mettre au lever et vous faire croire que c'est au naturel. Donc il y a cette idée de on va essayer d'être toujours plus belle, toujours plus beau. Donc cette idée de l'homo estheticus qui est un peu vraiment anxieux et vraiment ça tombe dans des excès dans notre société. Alors dernier point, donc si on conclut face à un désir d'exister virtuellement, c'est important d'avoir cette identité virtuelle, donc il y a une espèce de besoin de prévalence de la communication sur le soi, sur le self, qui peut conduire à oublier les cadrages. C'est-à-dire vous êtes au travail, mais vous allez oublier que vous ne devriez pas être en train de parler de vous, mais vous allez pouvoir oublier, et on sait que c'est ce qu'on reproche beaucoup aux millennials, beaucoup aux nouvelles générations, entre autres sur le temps où ils sont chez l'employeur. Et puis, autre point, c'est perte des références et des codes usuels des ruptures entre la sphère privée, la sphère publique ou la sphère de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on rentre dans le monde de l'entreprise. Il faut arrêter de regarder votre téléphone portable. Il faut laisser son soi à la porte d'entrée de son employeur. En tout cas, c'était l'espoir de l'employeur. Et donc, les entreprises, face à ça, sont soumises à de nouvelles obligations et préoccupations. Donc, elles ont de nouvelles mission, contrainte, comment je vais faire adhérer à des principes, à des valeurs, à une logique d'action de mon entreprise, puisque j'ai cet employé qui est fuyant, qui est non accessible, qui ne pense qu'à se mettre en scène, qui en plus, on le verra, est assez zappeur, donc qui est trop auto-centré, qui oublie en fait cette priorité organisationnelle. Il est là pour travailler pour l'entreprise d'abord. Et donc aussi, difficulté à faire adhérer, je vous ai dit, aux cultures de valeurs. Donc, des entreprises qui sont aussi mises au défi des nouvelles opportunités de communication. Donc, on a normalement une opportunité d'intimité avec son employé. On va pouvoir lui proposer d'être ami sur Facebook. Nous, le service recherche de l'UBS nous demande d'être ami et on est ami avec notre service recherche de notre université. Il faut aussi, par contre, que l'entreprise apprenne une autre logique de discours et d'échange parce que quand on est sur ces réseaux sociaux, on ne parle pas comme on parle, comme on échange de manière naturelle. Je voulais juste donner un exemple de la stratégie social média de la NASA, donc qui essaye de rendre accessible. Donc, vous voyez, j'ai trouvé ça intéressant, la quantité de réseaux sociaux numériques sur lesquels elle est. On connaissait Facebook, on connaissait Twitter, on connaissait un peu Instagram, mais alors on connaissait Pinterest, mais on ne les connaissait pas tous, en tout cas. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors, juste pour parler ensuite donc de opportunités menaces, j'ai essayé de proposer un cadre, mais qui est très simple, sur les opportunités, les menaces, opportunités en vert, menaces en rouge. Donc, la communication de l'employeur, la possibilité d'aller vers de nouvelles audiences. On a accès aux amis de l'employé, c'est un nouveau public. On a accès à des communautés, à des réseaux sociaux numériques. Ce sont de nouvelles surfaces médiatiques, nouveaux sites, nouvelles occasions, nouveaux moments pour échanger. Pour l'employeur, toujours dans sa communication, il peut envisager plus de proximité avec ses audiences, puisqu'on est censé être dans une logique d'intimité. Donc, on peut espérer des attitudes favorables, des émotions positives, des sentiments d'appartenance. Mais pendant négatif, c'est qu'il y a un risque d'intrusivité perçue. Je peux être amie avec mon service de recherche et ne pas forcément avoir envie qu'ils aient accès à toutes les informations qui concernent mes moments de loisir. De l'autre côté, troisième point, donc la présence des employés sur les réseaux sociaux numériques. De manière très basique, il y a un impact, on va pouvoir contrôler la performance de l'employé, on va pouvoir vérifier le temps qu'il passe, est-ce qu'il est effectivement en activité ou pas, est-ce qu'il est relativement concentré, quel est le temps effectif passé sur telle application, c'est-à-dire Word par exemple, ou son logiciel d'analyse de données, mais non pas Facebook. Mais le pendant négatif, c'est le risque de sur-surveillance de l'employé. C'est-à-dire qu'on peut mesurer son temps, on peut le géolocaliser, on peut faire de suivi d'activité de tous les outils qu'il utilise, donc les objets connectés, les smartphones, on peut regarder ce qu'il fait. Et puis, à un autre niveau, la présence des employés sur les réseaux sociaux numériques, par effet ricochet, si évidemment il passe moins de temps, il est moins concentré au travail, évidemment l'ensemble de l'activité, de la performance de l'organisation va être impacté. Et puis, dernier point, donc on en revient sur l'idée du capital de marque, c'est le contenu des posts, des messages que les employés vont diffuser sur les réseaux sociaux numériques. Il y a un effet donc à la fois positif et négatif. Effet négatif, c'est le risque d'image. Si jamais ils font un commentaire un propos négatif sur « mon patron, qu'est-ce qu'il est bête ?»« maudit président, qu'est-ce qu'on peut imaginer ?» etc. Donc tous les commentaires négatifs qui peuvent être faits, qui peuvent être mal interprétés. Mais dans le même temps, c'est aussi des opportunités de valorisation de l'entreprise, puisque souvent on estime qu'un employé, c'est un héros, c'est un champion, il représente l'entreprise. Donc il peut être un bon communicant, il peut être celui qui va promouvoir l'entreprise. Et puis le dernier point auquel on pense moins, mais qui est quand même très important, et même si on est en sciences humaines et sociales, qui nous concerne aussi, c'est le risque de dévoilement stratégique, c'est-à-dire qu'on donne des informations sur ce que l'on fait. Donc là, pour une entreprise privée, les lieux où se trouvent les dirigeants, les rencontres qui sont, à quel endroit vont-ils aller, ça donne des informations sur les partenariats possibles qui peuvent être en train de se mettre en place. Donc on tombe dans l'espionnage industriel et concurrentiel. Et par exemple, pour nous, enseignants-chercheurs, est-ce que vous avez vu que quand vous avez accepté que Elsevier ait toutes les informations vous concernant, ils ont quand même une information pertinente, adaptée sur les recherches par mots-clés que vous faites. Donc ils savent exactement sur quoi vous travaillez en ce moment, en termes intellectuels. Donc il y a un risque. Même si peut-être que ce n'est pas secret défense, mais quand même, on a aussi un potentiel. Donc passons rapidement aux travaux sur les chartes éditoriales sociales. Donc face aux pratiques de communication des employés qui peuvent parler de leur entreprise ou qui sont associés, qui personnalisent leur entreprise, on a un problème majeur, ce Web 2, qui fait qu'il y a un empowerment médiatique des consommateurs, eux-mêmes peuvent devenir des communicants. On n'est plus dans du top-down, on peut aussi être dans du top-down, vers le monde public. Et il y a un vide... Les juristes vont vérifier, mais une sorte quand même de vide juridique sur les postes des employés. C'est du public, c'est du privé, ça dépend, comme souvent. En tout cas, ce que ça amène souvent, c'est beaucoup, si c'est un poste négatif, ça amène de toute façon, qu'il soit responsable ou non, juridiquement parlant, ça peut avoir un impact en termes de crise réputationnelle pour l'entreprise, et ça, c'est un problème pour... Donc le souci, c'est que, selon une étude qui était faite en 2014, l'employé était la source première source d'une crise de réputation de l'entreprise. À 72%, c'est l'employé qui est le problème. Donc voilà, ça nous met la pression. Donc pour limiter ces crises, il y a eu la naissance du principe de la charte éditoriale sociale. Je pense que vous ne connaissez pas ce nom, enfin cette terminologie, mais vous connaissez ces principes, puisque c'est un document qui permet la formalisation de principes rédactionnels dès que l'employé doit s'exprimer sur les médias sociaux. C'est ce que vous aurez comme règles de bonne conduite, savoir parler, enfin, tout ce qui peut vous être donné, ça ne s'appelle pas forcément une charte éditoriale sociale. Les cibles prioritaires, c'est évidemment le webmaster, c'est évidemment le communicant, mais ce sont aussi les employés. On a fait 3 terrains d'étude déjà sur ces sujets-là, donc une analyse exploratoire des pratiques, le point de vue des producteurs et puis l'impact sur les employés. Celle sur les pratiques, on a fait une enquête, enfin j'ai fait, à l'époque j'étais seule, et j'étais à Sciences Po, une méthodologie de l'enquête sur les pratiquants donc les pratiques des communicants et des dirigeants. C'était une enquête par questionnaire, on avait plus de 100 répondants. Les attentes, bilan, c'est qu'il y a des attentes fortes en termes d'effets sur les publics qui sont visés, et des représentations qui sont assez variées sur le format attendu de la charte éditoriale sociale, donc référence à l'époque, Christine Petre, Sciences Po à Rennes. Donc quelques infos, donc exemple, le premier public visé, ce sont les salariés. Donc voilà, le point de vue des communicants, c'est qu'à 76%, on vise d'abord les salariés. Et puis qu'est-ce qu'on espère? C'est surtout, alors vous voyez qu'en fait, il y a seulement 20% des individus, c'est le premier chiffre, qui déclare « je ne changerai pas ma manière de faire ». Tous les autres estiment qu'ils vont un petit peu faire attention. Alors c'est du déclaratif, et c'est bien le souci. Donc c'est pour ça qu'on a fait autre chose. Juste pour situer, en Bretagne, en 2015, je vous donne quelques chiffres sur qui, finalement, donc c'était l'étude Marsouin 2015 sur les entreprises, et combien d'entreprises disposaient effectivement d'une charte éditoriale sociale formalisée. On en avait 3,4%. C'est tout. Alors que considère que, finalement, ce serait utile, 40%. Donc il y avait du travail à faire. On a mené ensuite un travail avec des collègues, donc par le biais d'un projet Marsouin, avec des collègues Barbara Frontard et Michael Lementec, qui sont de Rennes 2. On a fait une enquête sur le vouloir-faire des organisations, avec des entretiens semi-directifs auprès de responsables. Donc on avait 17 organisations qui ont répondu. Et la conclusion, c'est que la charte éditoriale sociale, c'est un des outils de régulation. Évidemment, ce n'est pas l'outil qui va faire la panacée, c'est un des outils au milieu d'une stratégie qui est vraiment multi-outillée. Donc voilà la référence. Et puis le dernier travail qu'on a mené, c'est une étude sur l'impact de la présence, du fait d'informer les employés qu'il y a une charte, sur leur comportement en situation d'attaque irréputationnelle. Alors, je vous explique, on a fait ça par expérimentation, en travaillant en collaboration avec la plateforme Noustic de Rennes, qui n'est pas loin d'ici. On a demandé aux panélistes, donc il y a un panel au niveau de Loustic, on a demandé aux individus, on les a mis en situation de salariés avec un scénario en plusieurs étapes. Alors j'ai repris ici le document si vous aviez besoin et selon le temps qu'il m'est imparti, donc je ne sais pas. Donc voilà. Donc on les a mis en situation de salariés avec un scénario en plusieurs étapes. On leur demandait de jouer le jeu, d'être sur Facebook et ils prenaient un rôle, ils s'appelaient Camille, voilà, pour que ce soit un peu à la fois homme ou femme. Et ensuite, il recevait un poste de quelqu'un, Alex. On ne sait pas non plus si c'est un homme ou une femme. Et il devait réagir. Et c'était un poste qui attaquait, en fait, qui donnait une information négative sur l'entreprise. Et on voyait comment il réagissait. S'il ne réagissait pas, on leur remettait une deuxième couche. Et même s'il réagissait, on mettait une deuxième couche et on regardait ce qui se passait. Et on avait une multi-angulation des mesures. C'est-à-dire qu'on a fait à la fois du réaction faciale, puisqu'ils étaient face à un ordinateur. On a fait aussi des comportements, observations, enregistrements, plus des réponses au questionnaire, enfin, un petit peu la totale. 75 individus, 25 individus par groupe. Les résultats sont qu'il y a un effet lié à la présence de la charte. Si on les informe qu'il y a une charte dans l'entreprise, ça a un impact sur leur comportement effectif. Par contre, on avait voulu proposer deux formes de charte, une qui était assez autoritaire. Il faut, c'est comme ça, c'est important. Et une qui se voulait responsabilisante, et là, il n'y avait pas d'effet. Je passe aux conclusions et plus importantes. Donc, avant l'ubiquité, la digitalisation des échanges sociaux, finalement, on faisait des actions correctives et de l'analyse a posteriori. Aujourd'hui, on fait des actions, des analyses et de l'action en temps réel. Typiquement, c'est du monitoring via de la géolocalisation, via de la contextualisation. Et on peut donc savoir si un taxi ou un livreur est en train de prendre son café quelque part alors qu'il devrait être sur la course parce que, justement, grâce aux informations qu'on peut avoir sur le trafic routier. On peut aussi faire des prédictions de l'anticipation. Donc, par exemple, il y a des signaux fermes, des signaux d'alerte. Est-ce qu'éventuellement, on est face à des situations de Big Brother ? Je pose la question de la surveillance au travail. Je vous renvoie à ce document que je ne vais pas vous lire, mais que vous connaissez peut-être et que j'avais trouvé intéressant, sur justement que l'employé n'abandonnait pas son... Bref. Conclusion perspective. Nous, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a un contrôle et un suivi systématique de l'individu avec un risque de perte de liberté individuelle. Et ça, ça met en science le sujet qui a été débordé par plusieurs personnes ici sur la notion de la data privacy, donc tout ce qui est RGPD, et qui implique des risques et des coûts pour l'organisation, quelle qu'elle soit. Ça a bien été dit, et aussi les collectivités territoriales. Ça pose quand même un souci côté organisation-entreprise parce que quel est le libre arbitre, le droit à l'erreur quand on fait trop de surveillance ? Parce qu'à travers la possibilité de ne pas être contrôlé et de faire un petit peu d'innovation, c'est là qu'on crée des opportunités. Et en termes d'expansion des enjeux, c'est qu'il y a des nouveaux enjeux de communication, savoir parler juste sur les réseaux sociaux et qu'il faut essayer d'inventer de nouvelles stratégies de sensibilisation aux valeurs de l'organisation. Donc comment rendre loyal un salarié, comment l'acculturer aujourd'hui. Et puis les contraintes d'adaptation à des nouvelles visions de management, quelle régulation, jusqu'où, etc., avec les limites de la surveillance de l'employé. Voilà, je crois avoir à peu près tenu le timing. Désolée.
Merci Christine, c'est intéressant parce que ça réinterroge, ça montre notamment comment le numérique met en rupture le paradigme de la modernité, finalement, qui est le paradigme de la séparation, les sphères, etc., etc. Les pouvoirs sont séparés, le dedans et le dehors, notamment. Tu vois, et la question de la limite des organisations, quand tu radicalises, elle est orientée client, elle est orientée usager, c'est-à-dire que tu l'inclus dedans, et tout ça est un peu complexe. Donc il y a la réponse managériale ou marketing qui consiste à dire le client ou usager va devenir une ressource de communication. Et toi, tu nous proposes justement cette idée que dans cette recomposition, qui est finalement une nouvelle économie de l'influence autour du numérique, le management propose notamment la réponse du salarié ambassadeur, mais ce salarié ambassadeur, il est pensé stratégiquement comme étant une ressource de communication. Tu l'as dit tout à l'heure, et ça, c'est intéressant. Et ça développe notamment les positionnements personal branding de quelques-uns d'entre nous. On travaille aussi, on se met en scène pour que notre institution, a priori, bénéficie plus ou moins de tout cela. Puis la deuxième remarque, c'est... je trouve aussi que c'est intéressant, moi qui ai beaucoup travaillé sur les démarches qualité, c'est aussi une vision, un niveau d'échelle du principe d'amélioration continue qui est assez intéressant et que ces dispositifs numériques permettent, quoi. C'est-à-dire être en réaction, en situation, quasiment en temps réel. D'où l'invention d'un nouveau métier qui est le community manager, qui vise à réenchanter, non pas comme on a essayé de faire la pensée managériale pendant des décennies, la communauté de travail, mais la communauté autour de la marque, autour de tout ça. Donc vraiment, merci, parce que c'était très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ? Et José, après.
C'est juste, qu'est-ce que vous pensez de l'idée selon laquelle... le juge, notamment le juge judiciaire, mais après je ne suis pas un spécialiste de droit privé, mais le juge judiciaire aurait réinstauré la frontière entre la sphère publique et la sphère privée. Je pense notamment à sa jurisprudence sur l'appréciation du nombre de personnes qui ont accès à l'information pour accepter le recours par l'employeur aux données Facebook. Il y a une jurisprudence, je crois, de fin 2018 qui dit que... Si la personne a insulté son patron, mais qu'il y a 15 personnes, c'est un groupe de 15 personnes limitées, alors c'est de la sphère privée, et donc le licenciement n'est pas valable. Et une autre jurisprudence qui disait que si l'employeur est allé accéder, pour utiliser des données contre son salarié, si l'employeur est allé chercher des données qui n'étaient accessibles qu'à un groupe restreint de personnes, c'est une atteinte déloyale à la vie privée. Et donc est-ce qu'en faisant ça, le juge ne réinstaure pas dans le monde virtuel la distinction entre la sphère publique et la sphère privée ?
À mon avis, il y a une partie de la réponse à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre, donc ça va être mieux que ce soit ma collègue à côté en droit. Après, la position du juriste, je pense que la difficulté majeure qui se passe quand on pense cette interaction employeur-employé, c'est vraiment cette idée qu'il vaut mieux éviter que le problème arrive. Et qu'en fait, on est vraiment dans la stratégie de sensibilisation. Ce que les entreprises et les organisations, de manière générale, et les universités aussi, essayent de faire, c'est-à-dire à essayer de les sensibiliser en disant « Attention à ce que vous mettez sur Facebook, attention à ce que vous postez. » Parce que même, prenons-nous, étudiants, les étudiants qui font une belle fête le jeudi soir, c'est mieux qu'ils n'envoient pas n'importe quoi comme photo parce qu'ils sont de telle université et ça ne donne pas une bonne image. Donc en fait, c'est plutôt une logique de prévention. Après, sur le côté... décider qui est responsable, est-ce que c'était une erreur ? Je pense qu'il y a aussi un dernier point, c'est y a-t-il eu un effet réel en termes d'image pour l'organisation qui est concernée ? Et le souci majeur, à mon sens, c'est que le problème d'Internet, c'est que ça ne s'efface pas. Donc on arrivera toujours à ressortir la photo qui n'aurait pas dû sortir, même longtemps après. Mais je vais laisser ma collègue répondre.
Effectivement, il y a eu des nouveaux défis qui ont été posés aux juges quant à la distinction de la sphère privée et de la sphère publique. C'est pas un débat nouveau. Ça a toujours été compliqué de faire la part entre ce qui relève du privé et ce qui relève du public, sachant qu'on a des protections, la protection de la vie privée, etc. Avec le numérique, ça a posé ce problème-là, parce que un compte comme Facebook, c'est un usage aussi à la fois privé, à la fois public, à la fois professionnel, à la fois amical, etc. Donc il y a un mélange des genres. Et la réponse, elle a été donnée non pas récemment, mais dès les années 2000, lorsque on utilisait les listes de discussion. Qu'on envoyait nos messages. Et la question était de savoir si, quand les propos étaient plutôt injurieux, si c'était une injure publique ou une injure privée. Et donc le juge a tout de suite essayé de poser des critères, parce que lui, il est obligé de répondre. On lui pose un problème, il est obligé de répondre, même si le législateur n'a rien dit. Et donc il a posé les critères que vous évoquiez, à savoir, est-ce que c'est... c'est quelque chose qui est dit à ceux qui veulent l'entendre, ou est-ce que ça reste dans un petit groupe de personnes choisies finalement l'objectif est que ça reste dans l'intimité. Voilà. Donc après, les critères, ils sont là pour répondre à ce moyen de distinction entre sphère publique et sphère privée. Alors pour Facebook, ça a été le critère ami, ça marche pas parce que même l'entreprise est un ami. Donc voilà.
Oui, j'avais une petite question. Enfin, je comprends rien au réseau. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu du chinois pour moi, mais bon, j'ai entendu parler, évidemment. Mais ma question, c'était un peu sur. On est quand même dans une démarche. On pourrait penser que c'est une démarche volontariste, individuelle, des produits de l'information qui est postée dans les réseaux sociaux, etc. Et donc, il y a des risques associés que je suppose que chacun doit assumer. Il y a donc la pédagogie, etc. Mais par contre, je m'interroge un peu sur le rôle des institutions privées et publiques dans la poussée aux individus pour produire ces informations. Alors, je vous donne deux exemples. Vous êtes pilote d'un projet européen. Et bien, si vous ne savez pas, un compte Twitter... Facebook, etc., et vous postez toutes les photos de tous les, je sais pas quoi, vous savez, tous les agendas, etc., vous êtes un loser, le projet marchera pas. Ou beaucoup des gens, d'individus qui doivent ouvrir un compte, j'en connais, qui ont dû ouvrir un compte Facebook parce qu'ils disent, pour accéder à telle ou telle information, si tu n'as pas un compte, tu ne peux pas y aller, etc. Donc quelles mesures aussi on produit, enfin on pousse justement, on rétroalimente les risques via la poussée des gens à produire de l'information.
Ce qui est assez amusant, entre guillemets, mais ça n'est pas toujours à vivre en tant qu'individu, c'est-à-dire qu'effectivement, on nous demande de communiquer, d'avoir par exemple, je prends le cas, nous enseignants-chercheurs, on nous demande d'avoir de la visibilité. D'être visible, de représenter notre organisation. Sauf que c'est du temps, c'est vraiment un travail en soi. Comme il y a des community managers qui travaillent pour gérer la communication de leur organisation, au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'au sein de mon université, il y ait un community manager à qui on puisse lui pousser toutes les infos, aller la photo de la dernière conférence où on est venu, aller une photo maintenant ou en ce moment ici. Comme ça, il peut la mettre pour le compte Twitter, le compte Facebook, ce qu'il veut pour alimenter, pour montrer qu'on est une université dynamique, mais que ce ne soit pas à moi de le gérer, parce que ça finit par prendre du temps sur mon temps de travail normal. Donc effectivement, de mon point de vue, on commence à se retrouver comme certaines petites entreprises, les PME, les organisations du secteur culturel, par exemple, qui doivent communiquer parce que c'est finalement de l'information, de la communication à pas cher. On printe pas. Enfin, donc c'est super, c'est très bien, ça met de l'animation. Mais en même temps, c'est du temps et c'est un métier. Je suis pas communicante, moi. Et je pense qu'on l'est pas, comme vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas pro des réseaux sociaux, moi j'en ai un, comme tout le monde, pour faire mettre quelques infos quand j'y pense. Et puis quand j'y pense, je vais essayer de mettre 5-6 trucs d'affilée. Voilà, c'est bon, j'aurai l'impression d'avoir fait mon travail de bon soldat, de bon communicant sur mon organisation. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et le deuxième souci, effectivement, c'est qu'on ne nous informe pas. On n'est pas formé à la gestion des risques. Et la gestion, entre autres, par exemple, ne serait-ce que des paramètres. Alors, qu'est-ce qui est du public, du privé, plus les changements qu'on ne gère pas toujours sur les nouvelles mises à jour qu'il peut y avoir, si pour peu que vous utilisiez vos téléphones pour aller sur les réseaux sociaux. Il y a automatiquement des mises à jour qui se font régulièrement sur votre téléphone, qui sont tellement rapides qu'on n'arrive pas. Il faudrait re-régler les paramètres. Ça devient un travail à plein temps. Et effectivement, la gestion du risque, elle n'est pas... Enfin, il faut faire attention. Parce que sur le même principe, vous pouvez vous faire prendre en photo à une conférence et vous êtes à côté de l'éditeur en chef de je ne sais pas quel journal. Et dans 6 mois, vous allez publier dedans. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui sera de mauvaise volonté, qui aura une petite critique et qui dira « bah oui, évidemment, facile, ils ont copiné pendant la conférence, c'est normal que la... » Enfin voilà, il y a toujours moyen, il y a toujours un biais à communiquer. En même temps, ce qu'on vous dira toujours, c'est qu'il vaut mieux prendre la parole plutôt que laisser les autres la prendre à votre place. Mais ouais. J'ai pas vraiment de réponse à ça.
Selon un principe, on ne peut pas ne pas communiquer. Premier axiome de l'école de Palo Alto. Émilie ?
Oui, merci. Je m'interroge sur le type d'entité collective dont on parle, parce que dans votre présentation, hein, ça glisse que traditionnellement, en sciences de gestion, vous parlez des entreprises, et puis on en vient à l'université pour nous permettre de comprendre et d'arriver dans notre univers de référence. Donc je trouve ces déplacements très bien, mais à mon avis, il faut les constituer en objet analytique, quoi. C'est-à-dire, est-ce que les entités collectives sur lesquelles vous avez travaillé, c'est des entreprises privées du secteur marchand ou d'autres types d'organisations de travail ? Est-ce que ça change des choses du point de vue des formes d'encadrement du discours des salariés que vous avez repérées ? Et d'ailleurs, peut-être aussi question aux juristes, est-ce que le droit administratif, le droit de l'emploi public, applique les mêmes règles que le droit du travail, par exemple, au regard de ces différentes formes d'expression ?
Alors, donc, dans les questions... Typiquement, ce qu'on fait, à chaque, bon, sauf dans le dernier cas, là où les participants à la dernière étude, on leur décrivait une organisation dans laquelle ils étaient tous censés estimer être travaillés. Dans les deux autres études, de toute façon, on interroge toujours à savoir dans quelle organisation vous travaillez. Et donc je reviens sur un postulat. Ce n'est pas parce qu'on est en sciences de gestion qu'on travaille uniquement sur le secteur marchand ou les entreprises privées. On travaille beaucoup sur le marketing. Il y a du marketing social. Il y a le travail des ONG. On est sur les collectivités territoriales. Donc non, toute organisation est entendable à ce niveau-là. Et effectivement, on a fait justement dans l'étude numéro 2, avec le travail donc auprès des producteurs, on s'est attaché à avoir, on a volontairement cherché à avoir des universités, des entreprises privées et des associations pour voir si les modes de régulation pouvaient être cohérents dans une structure. Et vraisemblablement, c'est plutôt la mission que se donne l'organisation et son dirigeant qui va être moteur. Il faudrait aller un peu plus loin pour voir. Il y a des cadrages, évidemment, qui sont, quand on est université, on ne gère pas les mêmes aspects que si on est une entreprise privée. Mais il y a plutôt, après, c'est d'autres éléments qui rentrent en compte. Ce n'est pas aussi catégorisable que ça. Mais oui, évidemment, on intègre ces éléments-là, mais pas à ce niveau de l'analyse.
Merci Christine. On vous propose de clore la session 2. On fait une petite pause et on repart après sur la table ronde. Merci à vous quatre.